J'ai rencontré Geneviève Imbaud-Bichet, directrice des éditions Bleues de Chine à Paris, il y a quelques mois, et je lui ai demandé d'où lui venait cet amour de la Chine.
Il y a fort longtemps, maintenant ça fait presque 30 ans, où après des études, j'avais envie effectivement de connaître davantage ce pays qui à l'époque était quand même relativement fermé, pratiquer la langue, l'étudier et partir donc là-bas pour connaître davantage de choses.
Est-ce que c'était un rêve d'enfant ?
Non, absolument pas. Non, pas du tout. C'est venu assez tard avec un rêve plutôt de voyager, parce qu'au début, quand on a 18-20 ans, on a envie de voyager, de partir là-bas et de se dire, après tout, pour communiquer si on le souhaite vraiment, la seule manière, c'est de pouvoir parler la langue, la lire, et c'est un tout, c'est pas évident avec la Chine et le chinois.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'étude de cette langue ?
Dans l'étude de cette langue, ça a d'abord été le pays, les gens, la civilisation. À une époque, dans les années 70, c'était très obscur, on parlait de la Chine, on en parlait mal. Nous, on avait des images que maintenant, avec le recul, on peut juger peut-être un petit peu fausses ou trop enthousiastes. Enfin bref, on ne connaissait rien. Et donc, j'avais envie de m'y coller et d'essayer de découvrir ce que l'on pouvait découvrir à l'époque et de voir combien tout a évolué, effectivement, en 30 ans.
Vous n'avez pas été déçu?
Non, je pense pas. C'est vrai que l'évolution était peut-être assez insoupçonnable de ce continent assez immense. Et quand on pense à certains titres de certains livres, on se dit effectivement que la Chine, par rapport peut-être aux humiliations qu'elle a reçues des Français et puis d'autres puissances étrangères, quand on pense au partage de la Chine justement après les traités inégaux, on se dit que c'est une belle revanche et qu'elle arrive effectivement à une position mondiale tout à fait enviable pour tous, mais peut-être, et c'est même sûr, au détriment de droits de l'homme et de droits tout simplement fondamentaux pour l'homme, ce qui est quelque chose qui est quand même très douloureux.
Quand et comment a commencé cette aventure éditoriale ?
Alors l'aventure éditoriale date d'il y a 12 ans, une aventure éditoriale qui a débuté avec Françoise Naour, qui est une traductrice pour laquelle j'éprouve une grande tendresse, beaucoup d'amitié, et qui, en dehors de sentiments personnels, a une écriture très belle, un jeu de mots remarquable, et qui rend les textes chinois qu'elle découvre, elle-même, et donc qu'elle aime, de manière jolie, poétique et excessivement agréable à lire. C'est un vrai cadeau quand elle me remet des traductions. Alors cette aventure a démarré justement il y a, il y a 12 ans que le premier Blue Chin sortait, mais depuis 14 ans, après avoir travaillé 3 ans à l'ambassade de France à Pékin, dans les années 86-89, je rentre en France, il y avait beaucoup d'écrits, beaucoup d'écrivains que j'avais pu rencontrer. Je faisais un peu tourner des traductions, tout comme Françoise, et qui malheureusement n'avait aucun écho parmi les éditeurs parisiens, grands ou petits. Et donc, de guerre lasse, en me disant que c'était quand même une littérature qui allait percer, qui revoyait le jour après une traversée du désert immense, non pas exclusivement de la révolution culturelle, mais de plus longtemps que cela, je me suis dit, il faut quand même donner la parole à ces écrivains qui ont le courage, dans un état et un régime politique aussi totalitaire que celui-là, de reprendre la parole. Faut leur donner, sur la scène internationale littéraire, la possibilité de s'exprimer. Donc, j'ai décidé de créer cette maison d'édition, de contacter des traducteurs. Et Françoise Naour a été la première à démarrer avec sa traduction de Wang Meng, l'ancien ministre de la Culture. Mais elle vous en parlera certainement.
Donc c'est une histoire de passion.
C'est une histoire de passion, une histoire de littérature et de passion avec la Chine. Vous me demandiez si c'était un rêve d'enfant. Pas du tout. C'est venu très tard, après mon bac, dans les années 75. Et après, ça a été un véritable engouement, presque une drogue. C'est vrai que et la langue, et l'écriture, et la découverte des textes, la lecture au quotidien, la pratique de la langue, les voyages là-bas, tout ça c'est très lié et on a vraiment envie effectivement de s'y plonger. Donc de donner aussi aux autres l'envie de découvrir cette littérature, cette Chine qui d'ailleurs n'est pas aussi différente de nous que l'on peut l'imaginer.
Quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on traduit du chinois en français ?
Alors là encore, j'ai fait des traductions, pas aussi nombreuses que celles de Françoise, donc elle sera plus à même de vous en parler. La langue chinoise est assez difficile à rendre pour tout plein de raisons. D'abord, les verbes ne sont pas conjugué, jamais. Donc il y a des petits mots pour rester assez précise tout en étant flou, on ne va pas entrer dans des détails, permettre de déterminer et de savoir si c'est le passé, etc. Donc il y a une grande compréhension totale de la part de celui qui lit le texte. Après, la difficulté, c'est de rendre dans un niveau de langue juste le texte chinois, parce qu'on ne peut pas traduire tous les auteurs de la même manière, et de voir effectivement souvent la petite musique. Et Françoise vous dira très bien comment elle peut rendre un Wang Meng, ou comment elle va rendre un Liu Xinglong, l'un des derniers jeunes auteurs nés dans les années 55, qu'elle vient de traduire. C'est exactement la même chose avec un autre traducteur à qui je voudrais rendre hommage, qui est Roger Darobert, qui a traduit Liu Xingwu, un auteur né dans les années 42, qui a été justement et précisément le premier, à la fin de la révolution culturelle, à redonner la parole à la littérature en publiant un petit roman qui n'a pas été traduit en français, le professeur principal. Et Roger Darobert donne à cet auteur, en français, la musicalité qu'il a à l'origine dans la langue chinoise. Et donc, lorsqu'on lit le livre dans les deux langues, on ressent exactement la même émotion et la même chose.
La moyenne des ventes d'un ouvrage chez Bleu de Chine?
Alors, la moyenne des ventes, au début, ça a été très dur de percer. Depuis 5 ans, je suis diffusée et distribuée par Actes Sud, donc je me sens épaulée dans ce travail-là, mais ça reste encore un travail personnel excessivement dur auprès des libraires, auprès des journalistes. La relation de presse est assez terrible. Ça reste sur un ouvrage qui est sorti à 2500 exemplaires, ça reste des ventes dans le début de 1500 à peu près, et alors après, donc, c'est un petit peu plus disons plus aventureux.
Quel regard portez-vous sur la littérature chinoise d'aujourd'hui ?
Alors, sur la littérature chinoise d'aujourd'hui, il y a des auteurs qui, à mon sens, ont écrit dans les années, tout au début des années 80, qui poursuivent leur écriture, très souvent dans une même veine, d'inspiration à la fois rurale ou de témoignage. Mais vous avez aussi des veines de romanciers beaucoup plus jeunes pour sombrer dans des histoires d'amour ou un petit peu sulfureuses comme on a eu l'occasion de le découvrir. Mais finalement, les auteurs qui, à mon sens, sont les plus authentiques sont ceux qui témoignent sur leur vie et qui intègrent l'histoire dans leurs romans ou dans leurs essais.
On pourrait dire que c'est la caractéristique du roman chinois, le témoignage ?
Pour beaucoup. Et puis effectivement, si vous voulez, faut voir aussi une chose en Chine, c'est qu'un petit peu selon les différentes générations, il y aura différentes écritures. Et la très jeune génération peut être née dans les années 70-75, et plus particulièrement les jeunes filles, s'adonneront à des choses peut-être plus scandaleuses, avec une envie de copier davantage les textes occidentaux, les écritures féminines et des histoires d'amour. Et c'est pas particulièrement ce que l'on aurait envie ou ce que moi j'aurais envie de montrer ou de découvrir. Je trouve qu'un texte qui est intéressant, c'est un texte qui raconte une histoire du début jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs ce que le public aime découvrir, mais qui, en lui, a des caractéristiques tout à fait chinois ou avec derrière une histoire, des dates, un repère, quelque chose qui en font un vrai texte de Chine.
Oui, parce que finalement, l'évolution de la littérature, vous en parliez pour les jeunes filles, elle suit la politique.
Alors, c'est pas exactement ça, parce que si vous voulez, les livres qui suivent la politique en Chine, c'est un petit peu difficile de parler ainsi, dans la mesure où, de la part des écrivains, il y a encore une autocensure. Ils n'écrivent pas tous ce qu'ils souhaiteraient dire ou écrire. Certains le pensent, mais ils ne le font pas. La censure, c'est-à-dire l'autocensure pratiquée chez l'écrivain pour pouvoir être publié, est encore très fréquente, quotidienne. Quand on parlait justement de ces jeunes femmes qui publient des romans, disons, de sexe, des journaux de jeunes filles un petit peu déjantées ou déboutonnées, et encore, ce ne sont que des minorités, des histoires qui se passent dans les grandes villes, et notamment à Shanghai. C'est pas des histoires qui témoignent d'une Chine rurale, d'une vie à la campagne paysanne, relativement et même encore très difficile. Non, si vous voulez, il n'y a pas d'ouvrage qui soit publié aussi librement, et certains écrivains qui souhaitent publier des textes avec des déclarations, je dirais, politiques. Autrefois, enfin il y a quelques années encore, les publier à Hong Kong, tentent de les publier à Taïwan ou carrément à l'étranger. Je pense à un texte que j'ai publié il y a quelques années, Stèle rouge, d'un écrivain qui s'appelle Jenny, dont je vais republier quelque chose l'année prochaine. Cet écrivain a publié des témoignages qui le mettaient dans des situations difficiles et il est parti, il est en exil aux États-Unis.
Est-ce que ça veut dire qu'il vous arrive de publier des textes d'auteurs qui ne sont pas publiés en Chine, mais pour la première fois en France ?
Tout à fait. Notamment, effectivement, par rapport à mon militantisme, aux droits de l'homme et à la dissidence en exil, les textes d'auteurs dissidents que je publie, le premier a été « Vent amer » de Harry Wu, le second a été de Wang Dan, le troisième de Weiting Sheng, ce sont des dissidents de trois générations différentes qui, pour deux d'entre eux, Harry Wu et Weiting Sheng, ont été incarcérés pendant 19 ans, parce que politiquement incorrect, parce que pour Weiting Sheng, qui est, à mon sens, le dissident le plus connu, avait demandé, en 1979, lors du premier printemps de Pékin, la cinquième modernisation, suite à des directives politiques de Deng Xiaoping, et qui, fatalement, a été incarcéré, 19 ans de prison, et qui, après, a été une monnaie d'échange avec les États-Unis. Et là, ce sont des textes écrits soit directement en français, par Marie Holzman, qui est une personne très impliquée et qui soutient cette dissidence en exil avec sa fondation Solidarité Chine, ou Harry Wu, qui a publié directement ses mémoires aux États-Unis en américain. Et ces textes-là ne sont pas publiés en Chine. Ces auteurs-là sont à peine connus encore en Chine, alors qu'ils ont fait, ils ont sacrifié leur vie pendant 19 ans et ils ont maintenant quand même ils sont hors de Chine et absolument pas connus.
Comment vous repérez vos auteurs ?
Pour les repérer, il y a plusieurs choses. Maintenant, c'est un petit peu plus facile. Tout au début, c'était par la lecture de revues, par la lecture de romans, et ça se poursuit. Mais avec des voyages fréquents en Chine, naturellement, fouillant dans les librairies. Alors maintenant, ce travail, effectivement, reste le même. Mais il y a les auteurs que j'ai déjà publiés qui m'envoient leurs manuscrits, qui me parlent d'autres. Et puis, il y a le travail de traducteur ou de traductrice, comme celui de Françoise Naour, Roger Darobert, Marie Holzman, qui est une collaboratrice aussi très fidèle et qui parfois peut me souffler des idées que je n'ai pas.
Alors, sur quels critères vous choisissez ces auteurs ?
Le critère, il y en a deux qui viennent d'emblée, c'est à la fois la qualité littéraire et à la fois ce que l'histoire raconte. Soit c'est un roman qui se tient, comme je vous le disais, du début jusqu'à la fin, avec, si vous prenez les traductions, puisque c'est un peu une journée Chine, Bleu de Chine et donc Françoise Naour, en prenant ces traductions, vous voyez qu'elle s'attache particulièrement à des romans qui retracent la Chine rurale, donc une Chine paysanne à 70% rurale, avec un peu d'humour, de dérision, puisque son dernier, La Guérite, ce sont des paysans qui sont mis en demeure de s'urbaniser. Mais également, ces traductions de Wang Mang, cet ancien ministre de la Culture, donc, qui avait été limogé en 89, lors du second printemps de Pékin. Donc, ce sont des textes qui sont empreints d'humour, d'ironie, de distance, très critique à l'égard de la Chine, donc quand on parlait de censure tout à l'heure, mais qui néanmoins sont publiés et publiés en Chine. Donc ce sont des romans courts ou longs, des petits textes qui racontent une Chine telle qu'elle est.
Alors justement, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plus de lecteurs aujourd'hui en France depuis que la Chine fait parler d'elle sur le plan économique ?
Je ne sais pas si c'est très lié, si vous voulez. C'est des calculs que je n'ai pas faits, je l'ai pensé, mais je ne crois pas. Je pense que lorsqu'on parle de la Chine économique, c'est des investissements, des hommes d'affaires, des entreprises qui veulent ou qui vont s'implanter là-bas, des voyages, des chiffres, des statistiques. Mais est-ce que tous ces gens-là qui vivent dans une urgence pressée de s'installer, de négocier, sans parfois justement très bien comprendre la Chine, ont-ils le temps ou souhaitent-ils justement découvrir davantage et au travers de textes comme ceux que propose Blue Chin, est-ce que ces gens-là vont découvrir ça pour se dire « prenons un peu de temps, soyons calmes, lisons et puis nous verrons » Je n'en suis pas certaine. Je pense que le lecteur, c'est le lecteur curieux, celui qui ne voyage pas toujours forcément réellement d'un pays à l'autre, mais peut-être par la littérature, qui va dans les librairies, qui fouille, qui demande à un libraire, qui a des coups de cœur parce qu'il y en a, et qui lui dit « voilà, tel ouvrage est intéressant, tel livre est bon ». Et voilà, et après le bouche à oreille marche. Est-ce que les ventes augmentent parce qu'il y a énormément d'échanges économiques avec la Chine ? Je n'en suis pas si sûre.
Mais en tout cas, ça amène dans les médias le fait qu'on en parle plus et peut-être une curiosité différente du lecteur. Moi, je me pose cette question parce que plus on parle d'un sujet, plus on a les oreilles qui sifflent.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et il est vrai, si vous voulez, que je vois pour les deux derniers livres qui sont parus au mois de mars, l'un qui est un essai, justement, écrit par Daniel Elisséeff sur un ouvrage qui s'appelle « 20e siècle, la grande mutation des femmes chinoises », qui explique bien. Et puis un second, La promesse de Shanghai, un roman écrit directement en français par un auteur français, Stéphane Fière, un premier roman. Donc deux ouvrages qui confortent un peu par leur sujet la ligne éditoriale de Bleu de Chine, mais qui sont aussi pour montrer qu'il n'y a pas que des parutions à partir des ouvrages chinois. L'essai de Daniel traverse le XXe siècle, donne des portraits de femmes et montre finalement qu'à chaque époque très politique, les femmes étaient comme ceci ou comme cela. Et vous avez ces femmes qui sont à la fondation, puisque l'ouvrage commence en 1911, fondation de la République populaire, de la première République de Chine, pas populaire, pardonnez-moi, loi qui interdit le bandage des pieds, des fillettes, première école faite pour les filles et qui ne seront plus des écoles de jésuites ou d'étrangers, mais des écoles chinoises. Donc voilà, cette femme chinoise qui va avoir en quelque sorte un petit peu une existence, une reconnaissance, jusqu'à ce que l'on a appelle avec Daniel Elisséeff la nouvelle Ève, c'est-à-dire cette jeune fille des grandes villes qui se déboutonne un petit peu, etc. Voilà, donc vous avez, au travers de 5 ou 6 périodes politiques, la maoïste, vous reprenez cette histoire de la Chine au travers de portraits de femmes qui ont marqué l'histoire. Donc ça, c'est un essai, vous m'en parliez tout à l'heure. C'est un livre qui a été très lu. Et effectivement, le public français est intéressé de se dire, voilà, en 120 pages, on a quand même une histoire des femmes, une histoire de la femme chinoise. Par ailleurs, très bien décrit et très bien documenté, puisque Daniel Elisséeff avait publié il y a quelques années, 5 ou 7 ans, Les femmes au temps des empereurs, donc très linéaire jusqu'à cette période de 1911.
Vos auteurs préférés ?
Alors ça, c'est très difficile, les auteurs préférés, parce que Blue Chin, c'est quand même une aventure qui est toujours à 2 ou 3 entre l'auteur et le traducteur, parce que sans auteur, voilà. Je vous parle de Françoise parce que je sais qu'elle va avoir un petit moment... Vous allez lui consacrer un moment. Stéphane Fière est un auteur aussi avec lequel je trouve la collaboration est délicieuse. Roger Darobert, c'est absolument merveilleux, qui est aussi auteur. Mais tous les auteurs chinois, comme Wang Meng, comme Liu Xingwu, comme Liu Xinglong, mais des plus jeunes, non, je trouve que Wang Shao, par exemple, réalisateur de cinéma dont L'orphelin d'Anyang l'a un petit peu sorti de l'ombre, j'ai... assez de tendresse pour tous mes auteurs chinois qui, au fil du temps, deviennent un petit peu des amis au fil des pages. Et puis aussi pour mes traducteurs, Françoise, Roger, Marie Holzmann et d'autres aussi, oui. Je trouve que c'est une aventure qui est pleine de complicité, pleine d'amitié et pleine de belles découvertes.
C'est un travail d'équipe, en fait.
Tout à fait, tout à fait.
Justement, à propos de découvertes, vos dernières découvertes qui ne sont pas encore publiées, là, les choses auxquelles vous pensez pour les prochains mois?
Alors les prochaines découvertes, ce sont pas pour les prochains mois parce que on est malheureusement obligé maintenant avec les contingences des diffuseurs distributeurs et c'est normal de travailler 6-7 mois en amont sur des ouvrages, donc jusqu'à la fin de l'année. Toute ma production est préparée, les textes sont en relecture. Mais disons que pour 2007, mais c'est de donner encore la parole aux auteurs que j'ai déjà publié. Donc Liu Xilwu avec un roman Les dés de poulet de la mégère, très drôle. Un court roman, plutôt un essai, mais très romancé, très beau quand même, de Jenny, dont je vous parlais tout à l'heure et de qui j'ai publié Stèle Rouge. Ça s'appellera Prière pour une âme égarée. Le titre est déjà très beau, très évocateur. C'est quelque chose d'autobiographique, un texte assez court. Mais également une anthologie que Françoise prépare. On va reprendre des traductions d'elle, là aussi elle vous en parlera, sur cette Chine rurale, des pauvres. Elle aime donner la parole à ces gens qui sont vraiment un petit peu anéantis par l'histoire, qui ploient sous la pauvreté, la misère, mais qui quelque part ont quelque chose quand même de lumineux et de rayonnant entre eux. De donner un peu aussi la parole à des femmes, Zhu Wenin, une jeune femme de Hangzhou, dont j'ai déjà publié un petit roman d'elle, et ça s'appellera Mariage à la légère, et puis de donner aussi la parole à une écrivaine taïwanaise, parce que la littérature là-bas existe aussi, elle est assez différente du continent, mais elle a une qualité indéniable, et c'est quand même des textes chinois avant tout. Voilà.